Midi 15, pétante sur le 94 FM, vous écoutez 3 en 1 et Canal B.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboires?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
De venir de Paris, de Lyon ou de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes il se passe quelque chose.
Bonjour à vous, ici Nina dans l'émission 3 en 1. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur Canal B en ce début de semaine. Et allez, on s'y jette sans plus tarder et sans transition. Qu'est-ce que nous avons au menu de l'émission du jour ? Doit-on encore être étonné de la violence, mais aussi de la vulgarité des personnes qui sont censées nous protéger ? Je parle bien sûr des enregistrements sonores des gendarmes en intervention pendant les manifestations de Sainte-Soline. On en parlera avec Clément Rouillet, maître de conférence en droit à l'université de Rennes 2, qui nous expliquera ce que la relation des forces de l'ordre à l'usage de la force et notamment à l'usage des armes non létales révèle de leur fonctionnement actuel. Et on en parlera aux alentours de 12h35. La santé mentale est-elle une grande cause perdu ? C'est la question que se sont posées les organisateurs et organisatrices d'une conférence organisée dans le cadre du Festisol qui a eu lieu la semaine dernière à la Maison Internationale de Rennes. Manon Potier sera avec nous pour en parler. Comme d'habitude, vous nous retrouverez cette semaine lundi et mercredi à 12h15 et en rediffusion les lendemains à 8h15 sur l'antenne de Canal B. Et vous pouvez également réécouter nos émissions en vous rendant sur le site de Canal B, canalb.fr. En attendant, et pour commencer l'édition d'aujourd'hui, une petite info du jour. C'est un chiffre qui m'a laissé de glace ce week-end et sur lequel je suis tombée par hasard. Un chiffre qui pourtant n'a rien d'exceptionnel et que j'avais sous les yeux depuis toujours. Cela ne vous aura pas échappé, la semaine dernière nous commémorions les victimes des attentats du 13 novembre 2015. C'est une date qui me paraissait plutôt proche, même si comme vous peut-être j'ai pensé 10 ans déjà. Disons que quand même je me souvenais de 2015 très clairement, comme d'un monde plutôt similaire à celui d'aujourd'hui de 2025. Tout ça c'était avant de tomber sur un tweet qui rappelait qu'en 2015, lors des attentats, il n'y avait que 2 députés Front National élus à l'Assemblée Nationale. Seulement 2. Ce chiffre m'a profondément choqué, car il m'a fait réaliser que je ne m'imaginais plus un quotidien, un monde à moi, dans lequel le Front National et l'extrême droite en France seraient presque inexistants. Sans m'en rendre compte, j'ai accepté l'idée que le Front National avait quelque part toujours existé aussi fortement qu'aujourd'hui dans ce pays. Ce chiffre 2 m'a tellement paru absurde que je suis allée vérifier. Et oui, effectivement, pendant la 14e législature de la 5e République française, entre 2012 et 2017, seulement 2 députés FN siégeaient à l'Assemblée nationale. Alors peut-être est-ce dû à mon âge que j'ai oublié ce temps où le Front National n'était pas présent partout, puisque je suis encore jeune, ou peut-être est-ce dû au fait que les thématiques qui saturent l'espace médiatique et le débat public en général sont celles portées et diffusées par l'extrême droite. Et ce, pas seulement sur le sujet de l'immigration, mais aussi sur la manière dont l'État voit les chômeurs et chômeuses, par exemple, ou le rapport des autorités aux associations ou personnes qui défendent la protection de l'environnement. Je m'informe, je suis au courant de ce qui se passe, ce sont des sujets qui m'importent et m'intéressent, et pourtant je ne l'avais pas encore réalisé dans ma chair. Un privilège dont je ne me serais pas encore rendu compte, c'est bien possible. L'info du jour alors, me direz-vous, eh bien, cela peut paraître ridicule, mais il se pourrait bien que l'info du jour, ou en tout cas mon info du jour, ce soit que les députés Front National, que j'appellerai dorénavant de cette manière, sont 123 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà, ce week-end, je me suis rendu compte que d'une certaine manière, la dédiabolisation du Front National avait fonctionné sur moi, alors plus sur la forme que sur le fond, mais quand même, je dois dire que ça réveille fort comme une claque dans le front.
Before I'd even met you, booked a hotel. rain. Thought about all those promises made.
Answer the texts, answer the phone. Tell me if you're coming to Alboroni. Answer the texts, answer the phone. Tell me if you're coming to
Alboroni. 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 Alboroni.
Vous venez d'entendre le titre Alboroni de l'album éponyme de Baxter Dury. Mais tout de suite sur Canal B, comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez écouté les enregistrements sonores publiés par Mediapart des gendarmes déployés pendant les manifestations de Sainte-Soline ? Peut-être choqué, désabusé ou complètement dégoûté ? C'est un peu le point de départ de l'interview que l'on vous propose aujourd'hui. Alors avant de commencer, petit mea culpa de ma part, la qualité sonore de l'entretien laisse vraiment à désirer, notamment pendant la première partie d'interview. Vous verrez, ça s'améliore au fur et à mesure, mais je vous prie de m'en excuser tout de même. Clément Rouillet, bonjour, vous êtes maître de conférence en droit à l'université de Rennes 2.
Bonjour.
Vous êtes spécialisé en droit administratif et en droit de la sécurité intérieure. Et c'est en cette qualité que l'on vous invite aujourd'hui. Il y a quelques jours, Mediapart a publié des enregistrements sonores de gendarmes en intervention pendant les manifestations de Sainte-Soline, des manifestations citoyennes contre la construction d'une méga-bassine dans les Deux-Sèvres. Et vous avez publié un article à ce sujet sur le site d'information de Conversation. Alors ces enregistrements font entendre un vocabulaire guerrier, une satisfaction de blesser l'adversaire parmi les gendarmes, mais aussi des consignes interdites et dangereuses qui sont pourtant données par la hiérarchie. Alors pour commencer, est-ce que ces enregistrements vous ont étonné en tant que citoyen ?
Alors en tant que citoyen, oui, ces enregistrements m'ont terrifié parce que ça témoigne effectivement, comme vous le soulignez, d'une vraie, déjà d'ordres qui sont manifestement illégaux, qui sont donnés par la hiérarchie, qui sont tolérés très largement par la hiérarchie. Ça témoigne aussi d'une jubilation manifeste de la part des gendarmes à faire mal, voilà, d'une espèce de virilité de caserne en fait, qui est très 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 gênante de la part des forces de l'ordre. Elle est d'autant plus terrifiante que ça a l'air manifestement, quand on écoute ces enregistrements, quelque chose qui est très généralisé au sein de la gendarmerie. De savoir que ce sont potentiellement des personnes qui vont être face à nous en manifestation, évidemment que c'est quelque chose qui fait peur. Ça inquiète forcément sur l'avenir des manifestations.
Et en tant que chercheur et juriste ?
En tant que juriste, c'est d'un certain côté c'est choquant parce que bien évidemment c'est des consignes qui sont illégales et qui sont très très largement relayées par la hiérarchie et qui sont appliquées par les gendarmes. En tant que chercheur sur des questions de police et de maintien de l'ordre, c'est moins choquant. Enfin c'est moins choquant. C'est pas surprenant, disons. C'est-à-dire qu'en fait, ces enregistrements sont plutôt le révélateur en fait, d'une évolution du maintien de l'ordre en France depuis 20-25 ans. C'est révélateur en fait, de consignes politiques, d'une brutalisation de maintien de l'ordre qui sont clairement relayées, en l'occurrence, à Sainte-Soline. En fait, les comportements des gendarmes ont été préparés en amont, c'est-à-dire que quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle d'écoterrorisme, quand il parle sur un plateau télé avant Sainte-Soline qu'on va voir des images extrêmement dures avec des gens qui vont venir pour tuer des gendarmes, forcément que ça prépare en fait un terrain à une répression qui est ultra sévère. Et ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau malheureusement dans le paysage politique et juridique français. Il y a une mutation du maintien de l'ordre, les sociologues qui travaillent sur la question parlent même de brutalisation du maintien de l'ordre depuis une vingtaine d'années. Donc en réalité, malheureusement, en tant que chercheur, c'est pas surprenant.
Les enregistrements prouvent aussi que les policiers ne respectent pas les précautions d'emploi des LBD, donc ils sont censés ne pas être des armes létales, mais seulement si on suit leurs précautions d'emploi. Ce que vous expliquez dans l'article publié dans The Conversation, c'est que ces précautions d'emploi ne sont pas fixées dans la loi, mais dans d'autres textes. Alors, est-ce que c'est correct ? Et surtout, quel texte, du coup, encadre l'usage de ces armes par les forces de l'ordre ?
Tout ce qui concerne la réglementation du maintien de l'ordre est fixé très généralement dans le Code de la sécurité intérieure. Donc, le Code de la sécurité intérieure, c'est un code qui concentre un grand nombre de lois françaises sur le maintien de l'ordre, mais le Code de la sécurité intérieure se contente, disons, d'encadrer de manière assez générale l'utilisation de la force armée. Concrètement, pour faire court, en maintien de l'ordre, les policiers et les gendarmes ont le droit de faire usage de la force dans plusieurs cas de figure. En cas de légitime défense, en cas d'état de nécessité, pour empêcher par exemple la réitération d'un délit ou d'un crime, ou alors pour dissiper un attroupement qui ne se disperse pas après les sommations réglementaires. Et donc ça, c'est simplement ce que fixe le code de la sécurité intérieure. Voilà les hypothèses dans lesquelles il est possible de faire usage de la force. Et le code de la sécurité intérieure précise aussi les armes qui peuvent être utilisées par les policiers et les gendarmes. Par contre, le code de la sécurité intérieure ne fixe absolument rien en ce qui concerne la manière dont ces armes doivent être utilisées. Et ça, ces réglementations-là, elles sont fixées par des textes qui sont assez épars et qui sont édictés par les autorités du ministère de l'Intérieur lui-même. Donc c'est des circulaires, des instructions du ministère de l'Intérieur, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la gendarmerie nationale. Et ce sont ces textes-là qui précisent, par exemple, les modalités à respecter dans l'utilisation des armes. Par exemple, c'est des textes comme ça qui interdisent les tirs tendus de grenades lacrymogènes, ce qu'on a très largement vu, hein, typiquement, lors de la manifestation de Sainte-Soline. Ce sont ces textes-là qui précisent les distances à respecter ou les zones de tir à respecter lorsque les policiers et les gendarmes tirent au LBD 40 ou au flashball.
C'est peut-être des textes qui passent un peu sous le radar de la vie médiatique au jour le jour, puisque ce sont presque en gros des documents de travail internes au ministère, si je résume et que je vulgarise. Est-ce que ce fonctionnement-là, c'est une spécificité de la vie publique française ou on retrouve ce procédé dans d'autres pays européens, par exemple ?
Alors, sur la partie légale du maintien de l'ordre dans d'autres pays européens, malheureusement, je pourrais pas vous répondre. Enfin, je connais pas suffisamment, je connais dans les grandes lignes un peu la manière dont ça se passe, le maintien de l'ordre, mais pas suffisamment dans le détail juridique. Par contre, ce qu'il est possible, effectivement, ce sur quoi il est possible d'insister, c'est il y a une dépendance assez forte en France des forces de l'ordre à l'égard du pouvoir politique. Ça, on le voit avec une chaîne hiérarchique descendante qui est parfaitement illustrée avec la figure du préfet. Les préfets sont directement en fait soumis au gouvernement, ils sont nommables, révocables discrétionnairement par le gouvernement. Et donc il y a vraiment un rapport politique qui est très très fort, qui existe entre le gouvernement et les préfectures. Ça on peut le voir, hein, il y a des exemples qui l'illustrent assez bien. Par exemple, pour prendre une illustration parmi beaucoup d'autres, lorsque le préfet de police de Paris, Didier Lallement, prend ses fonctions, il a cette phrase qui consiste à dire « Je suis là pour protéger le président de la République ». Ce qui est très révélateur de la manière dont ce fonctionnaire, ce représentant de l'État, s'imagine justement son poste. C'est pas du tout pour protéger la manifestation, mais pour protéger un chef politique national, en l'occurrence, qui était extrêmement décrié lors du mouvement des Gilets jaunes. Et ça, c'est une spécificité française. Alors, c'est pas le seul pays hein, où il y a ce rapport politique très fort, mais si on prend les voisins européens, il y a beaucoup de pays dans lesquels les forces de police sont pas du tout soumises à un pouvoir politique national comme en France. Par exemple, en Angleterre, en Allemagne, c'est des forces de police qui sont locales, qui sont gérées par des villes, par les Länder en Allemagne. Aux États-Unis, c'est les villes qui gèrent les forces de police. Donc, le rapport politique est très très différent. Et surtout, lors d'opérations de maintien de l'ordre, c'est les forces de police qui décident des modalités à employer pour disperser un attroupement, le tolérer ou pas. En France, c'est les préfets qui peuvent donner directement ces consignes justement de dispersion. Donc forcément, ça, ce rapport, cette dépendance à l'égard du pouvoir politique, à une période où le compromis social est terminé, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pouvoir politique en fait qui recule face aux mobilisations d'envergure dans la rue, on en a eu un exemple avec la réforme des retraites en 2023, bah forcément le pouvoir politique va se reposer davantage sur les forces de l'ordre pour disperser les attroupements, calmer, mettre fin à des mobilisations sociales. Donc ça, c'est une vraie spécificité française.
We'll be right back.
vous êtes toujours dans 3 en 1 et vous écoutiez à l'instant Mumbai Beach Blues de Duplessis and the Violins of the World, un morceau qu'on aime bien garder au chaud pour les journées où l'on a froid. Et on est de retour avec Clément Rouillet, maître de conférences en droit à l'université de Rennes 2. Vous, en tant que chercheur, ces dernières années, comment vous qualifieriez ces textes réglementaires et l'interprétation qui a été faite par les autorités du ministère de l'Intérieur, des précautions d'emploi, si on revient par exemple aux armes non létales, et plus globalement de l'ambiance en gros qui règne sur ces sujets.
En fait, les instructions du ministère de l'Intérieur sont très intéressantes dans ce qu'elles révèlent de la manière dont le ministère de l'Intérieur et les autorités qui en relèvent se représentent justement le maintien de l'ordre et l'intensité armée qui est acceptable à l'égard de la population. De ce point de vue-là, ces textes sont un peu à cheval entre une double logique dans laquelle est pris le ministère de l'Intérieur à ses autorités. C'est-à-dire que en encadrant l'usage des armes, le ministère de l'Intérieur, le DGPN, le DGGN, directeur général de la police et de la gendarmerie nationale, permettent d'encadrer ces armes-là et par conséquent de les légitimer. Dans un état de droit, il est nécessaire que les forces de l'ordre soient soumises au droit, que l'utilisation de la violence par la police soit soumise à un certain nombre de règles juridiques. Donc, en édictant ces instructions, on soumet les forces de l'ordre à des règles à respecter. En même temps, c'est assez problématique parce que en édictant des règles qui sont extrêmement précises, bah ça contraint l'action opérationnelle des agents, des policiers et des gendarmes sur le terrain. Si on dit par exemple, bon bah vous n'avez pas le droit de tirer dans la tête, bah forcément que si jamais il y a des tirs dans la tête, bah ça va faciliter des recours en indemnisation de la part des victimes. En fait, c'est toute l'ambivalence de la légitimité par ces textes-là, c'est-à-dire ça légitime l'usage de la force, mais en même temps ça contraint les agents sur le terrain. Et donc c'est cette espèce de double mouvement-là qu'essaye de gérer en fait le ministère de l'Intérieur. Pour synthétiser sur l'évolution de ces textes, souvent, les armes de maintien de l'ordre, du moins celles que j'ai pu étudier, elles sont introduites dans l'arsenal des forces de l'ordre avec un encadrement qui est assez faible. Par exemple, les premiers flashballs, des équipes de police s'en dotent dès 1992, alors qu'aucun texte réglementaire n'encadre leur usage. Le premier texte, c'est 3 ans plus tard, 1995. Et ce premier texte ne contient absolument aucune précaution d'emploi. Voilà, pas de distance de tir, pas de zone de tir à respecter sur les manifestants. Et les autorités du ministère de l'Intérieur réagissent a posteriori, en fait après une sorte presque d'expérimentation in vivo de ces armes. Lorsqu'elles causent des blessures, lorsqu'il y a des critiques qui commencent à les cibler, les autorités pour réagir, pour montrer leur activisme en la matière, bah, vont étoffer ces circulaires-là ou ces instructions. Ils vont dire, bon bah finalement, on n'a pas le droit de tirer dans la tête, on n'a pas le droit de tirer dans telle zone, il faut respecter telle distance de tir, ce genre de choses. Il y a un certain nombre de recours en responsabilité administrative ou pénale, où les juges s'appuient justement sur le non-respect de ces instructions pour condamner par exemple en faute l'État ou les agents.
Est-ce qu'à ce jour, vous avez une idée du nombre de plaintes qui ont pu être déposées peut-être depuis les Gilets jaunes? Et surtout du nombre de plaintes qui ont effectivement abouti à une condamnation de l'État ou des forces de police?
Bah, sur cette question-là, malheureusement, je n'ai pas travaillé sur les histoires de procès devant les juridictions pénales, mais par contre, j'ai travaillé sur le traitement des violences policières par le juge administratif. En tous les cas, ce qui est probablement certain, c'est qu'il y a assez peu de condamnations des forces de l'ordre par le juge pénal. De manière générale, les sociologues qui ont travaillé sur le sujet, même si, à ma connaissance, il n'y a pas d'enquête statistique exhaustive sur le sujet-là, mais expliquent bien que les forces de l'ordre, les agents qui sont sanctionnés devant les juridictions pénales pour violences policières, sont extrêmement rares. Elles sont souvent extrêmement rares, et souvent, c'est des sanctions qui sont assez souples. Et en général, les agents qui sont condamnés, c'est dans le cas vraiment des violences policières les plus accablantes. Vraiment, il n'y a absolument rien qui justifie, il y a une caméra qui montre que la violence était injustifiée. Et même dans ces cas-là, les sanctions sont relativement légères par rapport effectivement à la gravité des faits. Pour prendre un exemple local, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un procès pour violence policière à l'égard d'un membre de la compagnie départementale d'intervention de Rennes qui avait frappé 2 militants syndicalistes, dont un qui a eu le bras cassé, c'était pendant la réforme des retraites en 2023. Et sauf erreur de ma part, cet agent de police a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire, ce qui lui permet de continuer à exercer ses fonctions de policier. Alors il a été par ailleurs déclaré inéligible, il était élu dans une commune alentour. C'est une sanction qui est assez lourde si on prend l'ensemble des condamnations pénales des policiers. En réalité, c'est une condamnation qui est assez souple si on la compare, par exemple, à la gravité des faits. Donc là, on était sur violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Une personne qui se rend coupable de violence contre un policier, donc violence contre une personne dépositaire de l'autorité publique, les condamnations sont nettement plus lourdes.
Pour en revenir à l'usage des armes non létales et notamment des LBD, dont il est souvent question lorsqu'on parle de manifestations et des forces de l'ordre, selon l'ancien préfet de police Didier Lallemand, les LBD visent à maintenir à distance les manifestants pour éviter un corps à corps qui serait tout à fait catastrophique. Les fonctionnaires risquent même d'utiliser leurs armes de service s'ils étaient en danger. Les blessures infligées par les LBD semblent parfois regardé comme un moindre mal. Qu'est-ce que cette prise de parole nous dit? Et vous, en tant que chercheur sur ces sujets, comment est-ce que vous comprenez cette position de la police?
C'est souvent en fait un argumentaire qui est développé par le ministère de l'Intérieur et ses autorités au moment de l'introduction d'une nouvelle arme non létale. Il y a en réalité deux choses là-dedans. À la fois effectivement une volonté de protéger les forces de l'ordre en leur permettant justement d'utiliser d'autres armes que en fait leur matraque, d'éviter le corps à corps. Et aussi effectivement une espèce de logique un peu sous-jacente qui consisterait à dire que l'utilisation d'une arme non létale est une manière indirecte de protéger les manifestants parce que ça ne les expose plus en fait à l'utilisation d'armes létales. Et ce qui n'est pas du tout la même chose en réalité. Et d'ailleurs, si on regarde en fait les chiffres, l'introduction des armes non létales s'accompagne pas nécessairement d'une diminution, par exemple, des tirs d'armes à projectiles métalliques par la police, du moins par la police. Hein, si on prend les chiffres, si on prend par exemple les chiffres de personnes qui décèdent suite à l'intervention de la police, alors il y a beaucoup de débats hein, sur voilà qu'est-ce qu'on considère comme un fait policier mortel, mais on assiste à une augmentation en réalité des faits policiers mortels, donc des situations à l'occasion desquelles une personne meurt suite à l'intervention de la police. Depuis une dizaine d'années, c'est assez notable, il y a vraiment une augmentation des faits policiers mortels par rapport à avant. L'augmentation des armes non létales, qui est présentée comme une espèce de moyen de non-recours aux armes létales, n'est pas du tout corroborée pour le coup dans les faits. C'est une manière en réalité pour le ministère de l'Intérieur de légitimer l'utilisation de ces armes-là. C'est probablement quelque chose qui reviendra lors de l'introduction de nouvelles armes, hein. Ces armes-là sont... L'arsenal de la police et de la gendarmerie en maintien de l'ordre est systématiquement étendu hein, depuis une vingtaine d'années. Là, actuellement, le ministère de l'Intérieur teste des grenades flash, donc ils font un flash lumineux. Donc c'est probable que la recherche en matière d'armes de maintien de l'ordre, elle est assez considérable. Hein. C'est aujourd'hui un marché qui est extrêmement important dans les pays Europe occidentale. C'est probable que cet argumentaire-là, on va le voir ressurgir lors des prochaines manifestations, mais ça n'induira pas pour autant... je le pense, une diminution de l'utilisation des autres armes, qu'elles soient non létales, ou de leurs armes personnelles létales.
En Ille-et-Vilaine, c'est le préfet qui est en position de décision lorsque les forces de l'ordre doivent intervenir. Est-ce que vous savez quelle est la teneur des prises de position du préfet en général? Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, également des textes réglementaires ou des circulaires spécifiques qui ont été rédigés à ce sujet et qui sont en cours en ce moment en Ille-et-Vilaine?
Je sais que la position de la préfecture d'Ille-et-Vilaine est une position qui est assez stricte. Si on regarde, par exemple, l'encadrement des dernières manifestations lors du mouvement du 10 septembre et de ses suites, lors de ces deux occasions-là, la préfecture a pris des arrêtés qui interdisait très 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 largement la possession d'un grand nombre d'objets, alors tout ce qui va être considéré comme des armes par destination, même si c'est une catégorie qui est très floue, mais y compris des choses qui semblaient assez délirantes. Par exemple, il y avait une interdiction de posséder n'importe quel matériel qui était susceptible de mettre en échec les armes policières, ce qui visait en fait indirectement des masques à gaz et des lunettes de protection. Ce qui n'est pas une interdiction, hein. Pour le coup la Cour de cassation s'est prononcée là-dessus, c'est pas une infraction que de venir en manifestation avec des lunettes de piscine par exemple ou des masques à gaz. Donc il y a vraiment une interdiction très très large de la préfecture, ils interdisaient même d'ailleurs la possession de caddie, ça semblait assez délirant. Sur tout le département d'Ille-et-Vilaine, il était interdit de posséder un caddie si on n'avait pas de justificatif de posséder un caddie. Voilà, donc ça pouvait donner lieu, j'imagine, à des situations assez grotesques dans le département. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une position qui soit plus stricte que les autres départements. C'est certain que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est illustré ces derniers temps, néanmoins, par des prises de position qui étaient assez critiquables. Il y en a une qui avait un peu défrayé l'actualité locale, c'était en 2024, à l'occasion d'une contestation contre une loi immigration qui était portée par le gouvernement. Une manifestation qui a été assez émeutière dans le centre-ville avec des destructions matérielles, et le préfet, l'une de ses premières réactions a été d'accuser la maire de Rennes de n'avoir rien fait. La maire de Rennes n'est pas compétente en maintien de l'ordre, hein, c'est bien la préfecture, et d'accuser l'université de Rennes 2 d'être un centre d'hébergement de terroristes. C'était les termes du préfet d'Ille-et-Vilaine à l'époque. Donc il y a effectivement quand même une position qui est assez dure. Est-ce qu'elle est plus dure que dans les autres départements? Je ne suis pas convaincu de ça pour autant.
Merci beaucoup Clément Rouillet d'avoir été au micro de Canal B aujourd'hui pour cet éclairage sur la publication par Mediapart des enregistrements sonores de gendarmes pendant leur intervention aux manifestations de Sainte-Soline et plus largement pour votre éclairage et expertise sur l'usage de la violence par les forces de l'ordre aujourd'hui en France.
Merci à vous.
Manon Potier nous a rejoint en studio pour nous parler de ce qu'on pourrait appeler d'un phénomène de mode en politique.
Oui, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à la présidence de la République, il a mis à la mode des grandes causes nationales. En 2017, l'égalité femmes-hommes avait été nommée grande cause nationale. En octobre 2024, Michel Barnier, alors Premier ministre en poste, a désigné la santé mentale grande cause nationale de 2025. Le bilan de ces gouvernements successifs sur l'égalité femmes-hommes n'a pas été brillant. Malgré quelques avancées positives avec l'allongement des délais pour l'IVG et l'élargissement de l'accès à la PMA, les inégalités sont toujours présentes. Avec des budgets pour la lutte contre les violences conjugales encore trop faibles. D'ailleurs, seul 0,25% du budget de l'État avait été alloué à cette grande cause.
Et toi Manon, pourquoi tu as souhaité reparler de ces grandes causes aujourd'hui ?
Eh bien pour faire le bilan de la cause en cours, puisque nous sommes à quelques mois de la fin de l'année 2025. Mais aussi car jeudi dernier, à Rennes, a eu lieu la conférence Santé et droit, grande cause perdue, à l'occasion du Festisol.
Alors reprenons du début. Sur le papier, désigner une grande cause nationale, ça semble quand même être une bonne idée.
Oui, Dominique Drapier, chef de l'un des pôles en psychiatrie adulte au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, le rappelait jeudi dernier lors de la conférence que je viens d'évoquer. Désigner une grande cause, cela donne de la visibilité et de l'importance à un sujet. D'autant plus quand le sujet en question concerne une majorité de Français et Françaises. Selon les chiffres du gouvernement, 13 millions de Français sont concernés chaque année par un trouble psychique. D'après un rapport d'information produit par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en septembre 2019, entre 1990 et 2016, le nombre de lits d'hospitalisation en psychiatrie pour 100 000 habitants en France a diminué de moitié.
Et puis la pandémie est passée par là et a aggravé la situation.
Oui, pour résumer, on peut se baser sur un rapport daté de décembre 2024 des députés Sandrine Rousseau et Nicole Dubré-Chira qui ont enquêté sur la prise en charge des urgences psychiatriques en France. Depuis 2020, voici les tendances. Les épisodes dépressifs sont en hausse dans tous les segments de la population, notamment chez les 18-24 ans, chez qui ils ont augmenté de 77% entre 2017 et 2021. Selon l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, un tiers des passages aux urgences en 2023 pour motifs psychiatriques concernaient des mineurs.
Et parmi ces statistiques-là, est-ce qu'on retrouve d'autres tendances ?
Ce sont les jeunes filles qui sont en moyenne les plus touchées par ces problèmes de santé mentale. Selon le ministère de la Santé, les urgences liées à un geste auto-infligé chez les femmes de 10 à 19 ans ont augmenté de 133% depuis 2020 et de 570% depuis 2007.
Les pourcentages que tu viens d'évoquer sont vraiment très inquiétants, voire totalement effarants. Donc on comprend que le gouvernement ait nommé ce sujet grande cause nationale, mais concrètement, sur la période qui nous intéresse, on a l'impression que la situation a tout simplement empiré. Alors finalement, quel bilan on peut dresser de cette grande cause nationale 2025 ?
Le gouvernement avait identifié 4 objectifs pour cette grande cause. Déstigmatiser la santé mentale, développer la prévention et le repérage précoce, améliorer l'accès aux soins sur tout le territoire et accompagner les personnes dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes mi-novembre, le bilan est mitigé. Concernant la stigmatisation, on peut reconnaître que parler de santé mentale est devenu plus facile dans le cadre privé comme public. La prévention de la santé mentale est censée être plus présente dans le milieu scolaire, avec la mise en place de référents dans les écoles, collèges et lycées depuis la rentrée 2025. Mais mi-septembre, certains établissements étaient toujours dans le flou sur ce sujet. Mais pour les autres objectifs, eh bien, la demande augmente, mais les moyens diminuent. C'est le rapport parlementaire de 2024 qui le dit. Le système de soins psychiatriques français a connu une perte nette de près de 7000 places en 15 ans et continue à diminuer, encore plus rapidement que dans les autres services. En résumé, la situation est alarmante.
Merci à Manon Potier pour cette chronique et merci à notre invité du jour, Clément Rouillet, d'avoir été avec nous dans 3 en 1 sur Canal B. On se retrouve mercredi même heure sur le 94 FM. Et je ne l'ai pas encore dit, mais vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse redaction@canalb.fr pour tout retour, commentaire ou sujet que vous auriez envie de nous partager. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter et vous souhaiter une bonne journée et un bon début de semaine.